स्वतंत्रता अकादम समाजोनक युवम दर्शन जनसंजराचन सतंजारे
Bonjour, bienvenue sur la station Principe Actif, fréquence 95.9, et nous sommes au Forum de l'engagement et de la citoyenneté de la salle des fêtes de Verneuil d'Avréditon. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Aujourd'hui, nous parlerons de la Maison de l'Europe, la Ligue de l'Enseignement, la Marine Nationale, les violences sexuelles, et nous ferons un tour dans le camion des pompiers. Pour réaliser cette émission, nous sommes accompagnés de Alexis, Florian, Jordan, Lucas et de moi-même, Alexis.
Principe Actif.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Dans le sud de l'heure, 95.9. Aéroïque, 102.4. Et partout ailleurs, sur principeactif.net.
Et nous sommes accompagnés de Madame Belguise et Monsieur Latuil, les organisateurs du forum. Bonjour.
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 Première question facile, comment allez-vous aujourd'hui?
Il fait beau, il fait chaud et nous avons de l'ambiance au forum, donc nous sommes très bien.
Donc moi je répondrai que nous allons tous bien. Je vois que les jeunes sont super excités à l'idée de passer cette journée de la jeunesse citoyenne à Verneuil, à la salle des fêtes. Donc je pense qu'on va passer de très bons moments tous ensemble. Merci pour votre invitation.
De rien.
Alors nous, on aimerait avoir quelques informations, principalement, quelles sont, pourquoi avez-vous décidé de faire ce forum-là et quelles sont les premières idées que vous avez eues à la création de ce forum?
Alors, j'ai plein de réponses possibles. Mais il faut garder à l'esprit qu'en fait aujourd'hui on est là pour les jeunes, hein, pour les mettre à l'honneur, parce que ce sont eux qui depuis septembre dernier, donc les collégiens et les lycéens que nous rencontrons à peu près une fois par mois, ce sont eux qui ont travaillé sur des thématiques citoyennes, et à partir de ces réflexions qu'ils ont engagées, nous les avons encadrés, bien sûr, nous n'étions pas seuls, hein, nous étions entourés de professionnels de l'animation. Nous les avons accompagnés pour construire des actions citoyennes qu'ils sont aujourd'hui venus vous restituer. Et elles sont nombreuses, donc on pourra en parler après si vous le voulez bien. Elian, si tu veux ajouter quelque chose. Mais en fait, la journée, elle est pour eux, hein, elle n'est pas pour nous. Ouais. Ce sont eux qui proposent des choses qu'ils ont concrétisées pendant tous ces mois de travail et de dur labeur.
D'accord. La cible principale de ce forum, c'est les jeunes ou c'est vraiment tout le monde peut participer
Alors bien sûr, tout le monde peut participer. La cible principale, j'aime pas parler des cibles dans ce temps, c'est quelque chose que nous organisons, que nous aidons à organiser autour de la jeunesse et autour des idées de citoyenneté et de solidarité. Et ces idées, il est important de les défendre et de faire apprendre aux jeunes ce que ça peut amener dans leur vie de tous les jours. C'est pour ça que nous avons organisé un certain nombre de tables rondes au collège et au lycée, où les jeunes choisissent eux-mêmes un sujet ayant trait à la citoyenneté, à la solidarité. Ils travaillent dessus toute l'année, et lors du forum, ils restituent à destination de leurs collègues leur travail pour arriver à les sensibiliser sur ces sujets.
D'accord. Ensuite, vous, malgré tout ça, vous avez quand même des propositions, enfin des propos. Le forum propose bien des choses autres que la proposition des jeunes.
Absolument. Donc je vais vous répondre sur le sujet. En fait, le thème de la rentrée dernière qui a été retenu parmi les thématiques citoyennes, ça a été la solidarité. Donc solidarité, donc vous verrez, pour la cause animale, pour les violences faites aux femmes, etc. Ils ont tous choisi des sujets en rapport avec la solidarité. Et comme on voulait également, dans le cadre du parcours citoyen, je rappelle ce que c'est le parcours citoyen, il y a trois étapes obligatoires, hein. C'est l'enseignement militaire, donc c'est l'enseignement de défense qui est dispensé au collège et au lycée. C'est également le recensement, et c'est troisième étape, c'est la JDC, excusez-moi, c'est la journée défense et citoyenneté. Donc dans le cadre du parcours citoyen, et toujours avec la thématique solidarité, nous avons eu l'idée de faire venir des professionnels militaires et civils qui ont œuvré pendant notamment tout le Covid pour participer à la solidarité à travers comme les sapeurs-pompiers de la base d'Evreux que vous avez vu à l'extérieur, qui ont œuvré et qui ont participé à la désinfection des locaux de commissariat de police, d'établissements scolaires, du conseil départemental, etc., qui ont aussi monté des tentes, qui ont participé à tout le secours qui a été mis en place par les hôpitaux. Donc on souhaitait faire venir tous les corps d'armée sur cette journée solidarité. C'est dans le cadre de l'opération Résilience.
D'accord. Et du coup, le forum propose aussi de l'engagement. Et l'engagement présenté, c'est bien l'engagement du coup des jeunes qui proposent leurs activités et leurs stands à propos de la cause qu'ils veulent défendre.
Oui, absolument. Donc on sent bien que les causes qu'ils ont envie de présenter aujourd'hui, qu'ils ont choisi de présenter aujourd'hui, ils ont envie de rallier à leur cause. Et d'abord, bien sûr, le premier message, c'est de sensibiliser leurs camarades. Mais ils ont envie de rallier à leur cause leurs camarades également. Mais pourquoi pas ensuite monter des associations, des petits clubs internes au sein du collège ou du lycée. Voilà. On pense que par la suite, il y aura quelque chose dans l'engagement qu'ils prennent dès aujourd'hui.
D'accord, donc en fait, c'est un engagement que...
C'est un engagement citoyen.
Voilà, donc qui durera enfin, aujourd'hui, mais comme pour les jours futurs et
tout
les années
fait.
Futures.
Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous travaillons depuis 3 ans, 4 ans maintenant, avec les collégiens et les lycéens sur des tables rondes, qu'on appelle des tables rondes, mais ce sont des ateliers de réflexion citoyenne. Donc là, depuis 2 ans, avec la Covid, nous n'avons pas pu faire aboutir sur un forum les actions qu'ils avaient engagées. Nous avons fait autrement. Nous les avons mis à l'honneur, nous avons accompagné des actions sur des micro-trottoirs, des choses comme ça. Donc effectivement, on a fait autrement pendant 2 ans, et cette année, on rattrape un petit peu les choses qui sont restées en stand-by, et on espère, à la rentrée prochaine, on a déjà un petit calendrier, je ne vais pas dire définitif, mais presque, on espère les retrouver en septembre pour à nouveau poursuivre les actions déjà engagées, et celles qui sont restées en stand-by depuis 2 ans.
D'accord, et au final, ce forum-là que vous proposez aujourd'hui, vous le proposez chaque année à la même période ?
À peu près à la même période.
Okay. Oui. Et chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent à ce forum et du coup qui fait vivre en quelque sorte ce dernier.
Ah oui, absolument. Ça permet de mettre en lumière non seulement la citoyenneté, mais le bien vivre ensemble à Verneuil. Et c'est quelque chose qui est très important pour Monsieur le maire et pour toute l'équipe de la municipalité. Et avant tout pour les jeunes.
D'accord.
Et pour tous les jeunes qui voudraient passer faire un tour, si les horaires, c'est à peu près quand la fermeture ?
9h jusqu'à 16h30. Après, c'est ouvert entre midi et 14h également, midi et 13h30. Hein. C'est ouvert au public. Voilà.
D'accord.
Pas que pour les collégiens et les lycéens, c'est ouvert à tout public, jeunes et moins jeunes.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Vous écoutez Principe Actif, à Évreux, sur 102.4.
102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
95.9.
95.9.
Principe Actif, le mix des cultures.
Eh bien, bonjour, madame Imery. Alors vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui.
Eh ben merci, c'est une très bonne question, j'adore. Je vais très bien aujourd'hui, merci, c'est une belle journée ensoleillée à Verneuil, donc on est très très contents d'être là aujourd'hui.
Ah, nous aussi également. du coup, vous êtes de la Maison de l'Europe.
C'est ça, exactement. Donc moi, je suis chargée de mission mobilité internationale à la Maison de l'Europe de l'Eure, à Évreux. On est une association à vocation régionale, c'est-à-dire qu'on intervient sur le département, mais un petit peu plus loin aussi quand on nous demande. Et on travaille à informer sur l'Union européenne, sur les projets, l'actualité et sur la mobilité internationale aussi.
Ok. Donc du coup, vous proposez au final beaucoup de missions pour tout ce qui touche l'Europe. Mais est-ce que vous allez aussi proposer plus loin que l'Europe ou ça reste vraiment concentré dans l'Europe ?
C'est une bonne question parce que souvent les gens, ils entendent Maison de l'Europe et ils se disent on renseigne effectivement bien sûr sur l'Union Européenne, donc les 27 pays de l'Union Européenne. Il faut savoir que l'Union Européenne, c'est un espace aussi en construction. Donc il y a des pays qui sont partis, on a tous entendu parler du Brexit, mais il y a aussi des pays qui sont candidats et qui peuvent entrer dans l'Union Européenne. Donc nous, quand on parle de Union Européenne, on essaie d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher plus loin. Pour ça aussi, on a une volontaire ici à la Maison de l'Europe qui s'appelle Azal, qui est de Turquie et qui elle vient parler du fait qu'il y a des pays qui sont candidats pour faire partie de l'Union Européenne aussi, qui ont aussi leur culture. Et donc on renseigne sur l'Union Européenne bien sûr, mais aussi un peu plus loin quand besoin se fait.
D'accord, mais du coup vous restez que sur la mobilité ou vous pouvez proposer aussi quand même des choses à l'intérieur de la France et un peu peut-être pas que France mais un peu plus loin
Alors nous, quand on renseigne sur la mobilité, on envisage la mobilité comme le fait de bouger déjà. D'accord. Donc souvent, quand on parle de mobilité internationale, on imagine que les jeunes vont partir à l'étranger. Mais il y a aussi la mobilité entrante, le fait d'accueillir des personnes étrangères dans sa ville, ça fait aussi partie de la mobilité. C'est le cas de nous quand on reçoit des volontaires européens. Donc là, on a deux volontaires européennes aussi. À monter des projets avec elles, découvrir leur structure, ça fait aussi partie de leur mobilité. Et puis, quand on fait des projets aussi, il faut savoir qu'on a des institutions européennes sur nos territoires. Ça peut être aussi des jeunes qui vont visiter les institutions, comme ça a été le cas en 2021. On a eu un groupe de jeunes normands qui est parti visiter le Parlement européen à Strasbourg. Donc ça, c'était un voyage de 3 jours, tu vois, on est toujours en France. Mais ça leur a permis aussi de toucher un petit peu à l'Europe et à se dire que je voyage sans partir vraiment du pays. Et puis, ça peut être aussi de se dire que venir pousser la porte de la Maison de l'Europe, c'est déjà voir le drapeau de l'Union européenne, se dire que il y a 27 pays, comment ça se passe, comment on travaille ensemble, ou comment mon département parle d'Europe aussi, parce qu'il y a des actions qui sont au niveau du département, comment la région parle de l'Europe. Donc finalement, nous, la mobilité, on l'envisage comme parler d'Europe, parler de voyage aussi, déjà, l'interculturel, entrant et sortant. Les deux sont possibles.
Il y a aussi, vous faites la mobilité et tout ça, mais vous intervenez énormément dans les pays externes de France ou même externe à l'Europe.
Alors, sur les interventions, nous, quand on part à l'étranger, c'est généralement pour des formations. On va se former avec le programme Erasmus+, notamment dans d'autres pays de l'Union Européenne ou des pays partenaires aussi. Et puis, quand on est sur des interventions et qu'on reste en France, là, nous, on va vraiment dans tout ce qui est établissement scolaire. On commence dès la crèche, même, parce qu'on peut faire des petits ateliers de sensibilisation au goût, à la musique d'autres pays de l'Union Européenne. On va aussi dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, même à l'université. Et puis, ça peut être aussi même les adultes, de les sensibiliser à l'Europe dans leur quotidien.
D'accord, donc du coup, vous touchez vraiment tout le public possible, même les tout petits.
C'est ça qui est assez intéressant dans ce travail, c'est que ça peut être des fois très intergénérationnel, parce que quand on est sur un forum qui est ouvert au grand public, on peut avoir des tout petits qui viennent demander un petit drapeau de l'Union Européenne et qui viennent faire un petit jeu, tout comme on peut avoir des adultes qui disent moi j'ai terminé ma carrière, j'ai parlé un peu d'Europe dans ma carrière, ça m'intéresse, est-ce que je peux récupérer une petite carte de l'Europe, vous faites quoi comme métier? Donc c'est vraiment un travail qui est assez ouvert, où on va vraiment vers les gens, ça c'est très important pour nous, on essaie d'être présent au maximum sur les lieux de vie, donc les forums, les foires, les salons, les marchés même, où là on va voir les gens des fois avec un petit café, un jus d'orange en disant nous on est la Maison de l'Europe, est-ce que vous nous connaissez, est-ce que vous êtes intéressé pour savoir ce qu'on fait? Des fois il y en a qui sont là non je connais pas, ça m'intéresse pas, d'accord. Et puis finalement quand on leur raconte un peu ce qu'on fait, là ils se disent c'est pas mal quand même.
Ouais d'accord, je comprends, mais tout à l'heure vous avez parlé de l'Erasmus, mais est-ce que l'Erasmus ça fait partie de la mission de la Maison de l'Europe ou c'est vraiment un truc à part et que vous travaillez en collaboration ensemble
Alors, Erasmus Plus, maintenant, c'est un programme de l'Union européenne qui permet à tous et toutes de vivre une expérience à l'étranger. Donc, Erasmus Plus, c'est un programme qui existe depuis 1987 et que nous, la Maison de l'Europe, on promeut. C'est-à-dire que dans nos missions, on est en charge de faire connaître ce programme et de permettre aussi aux autres structures du territoire de connaître les opportunités qu'ils peuvent avoir avec Erasmus+. Un exemple, par exemple, tu peux être, travailler dans un établissement comme un collège et puis se dire j'ai envie de monter des projets Erasmus+, pourquoi pas faire que mes élèves puissent rencontrer d'autres élèves d'un autre pays. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner les structures qui ont envie de se lancer dans des projets Erasmus+. Ça peut être aussi des jeunes qui parfois se posent des questions sur la mobilité, nous, on peut les renseigner aussi. Et voilà, et puis c'est un programme qui est assez connu, qui vraiment, c'est quand on parle de l'Union Européenne aux gens, la première chose qu'ils nous disent, ah oui, c'est Erasmus+, quoi, c'est ouais. Le fait de partir à l'étranger. Et nous, on est contents parce que ça veut dire que c'est un programme qui a fonctionné, qui marque vraiment les gens et pour lequel ils ont une affection particulière.
D'accord, je comprends. Mais par exemple, moi, je suis jeune et j'ai envie de vraiment partir. Quelle démarche je peux faire pour pouvoir partir vraiment et bouger où j'ai envie?
Alors, la première démarche, moi, je dirais, c'est de venir à la Maison de l'Europe, de nous rencontrer, de nous appeler, de nous contacter sur notre site internet, notre newsletter, sur nos réseaux sociaux. Et puis, nous, on parle beaucoup du Corps européen de solidarité, qui est un programme de l'Union européenne aussi. C'est un programme qui est à côté d'Erasmus+, c'est deux programmes séparés, qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de partir faire du volontariat dans les pays de l'Union européenne. C'est du volontariat qui est financé par l'Union européenne, c'est-à-dire que tu ne paies pas tes frais de voyage, de logement et ta nourriture sur place. Imaginons que là, cette expérience de radio te plaît, tu te dis pourquoi pas faire de la radio associative, en Slovénie, et tu peux trouver une mission pour partir être animateur radio dans une mission locale, peut-être là-bas, dans une association. Et donc, il y a plein de missions qui sont possibles comme ça, et nous, la Maison de l'Europe, on accompagne les jeunes dans leur candidature, on les aide vraiment à formuler leur projet. Et puis, il y a des fois des jeunes qui ont envie de partir et qui ne savent pas le pays, qui se disent j'ai envie de partir, mais c'est pas pour tout de suite, donc on donne la première information. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais nous on dit vraiment quand il y a une envie de partir, renseignez-vous, il y a plusieurs structures du territoire qui peuvent faire ce travail-là, et puis nous on est vraiment dispo pour accompagner dans tous les projets de mobilité.
D'accord, merci beaucoup, et au final les jeunes ne sont pas vraiment lâchés dans la nature tout seuls.
Non.
Ils sont bien encadrés.
Le programme du Corps européen de solidarité, c'est un bon programme pour une première fois à l'étranger, parce que ça permet aux jeunes et des fois même aux parents aussi de se sentir vraiment encadrés, parce qu'ils ont vraiment un accompagnement avec un tuteur à l'envoi, donc de la structure d'envoi. Dans l'heure, la Maison de l'Europe, on est structure d'envoi du Corps européen de solidarité. Moi, je suis tutrice des jeunes qui partent à l'étranger. Et puis, à l'accueil, ils ont aussi un tuteur ou une tutrice dans la structure sur place qui leur permet vraiment de suivre leur projet. Parce que lorsque tu pars à l'étranger, forcément, tu t'intègres dans une mission, dans une association, mais il faut penser au après, au retour aussi. Là, je suis sur une mission de 1 an, par exemple, pour certains. Après, j'ai envie de reprendre mes études. Comment ça se passe? Le pays me plaît, j'ai envie de rester. Et donc, le tuteur sur place leur permet vraiment de s'intégrer, d'imaginer des projets après, et puis peut-être de prolonger des fois leur séjour pour certains et certaines.
D'accord, je comprends. Évidemment, après, c'est une bonne... peuvent partir, mais si par exemple ça leur plaît pas et qu'ils veulent revenir ou ils veulent repartir autre part, ils font comment? Ils font la même démarche ou
Alors, ça arrive des fois qu'il y ait des jeunes qui se lancent dans un projet, finalement on change d'avis. C'est pour ça que c'est important d'avoir une structure qui accompagne, parce que nous on monte vraiment le projet avec le jeune et on fait en sorte qu'il n'y ait pas en quelque sorte un décalage entre ce qu'ils envisagent et ce qui va se passer vraiment sur place. Et puis il y a des jeunes des fois qui, comme tu disais, une fois qu'on est parti, on aime bien, on a envie de repartir. C'est possible de partir sur d'autres programmes, en sachant que le Corps européen de solidarité, le programme dont je t'ai parlé avant, on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. C'est comme le service civique, mais par contre on peut faire un service civique international. Et donc moi je suis là aussi pour conseiller les jeunes, leur dire si tu as déjà fait ce programme là tu peux déjà faire un autre programme, etc. Donc c'est assez intéressant pour eux de pouvoir rencontrer quelqu'un physiquement et de se dire je peux poser mes questions pour monter mon projet et éviter une déception à l'étranger.
D'accord, du coup c'est vraiment une chose à faire au moins une fois dans sa vie pour
Moi, je dirais que l'étranger, oui, c'est à tester au moins une fois dans sa vie. Après, on peut tester l'étranger différemment. Vous avez des gens qui sont très ouverts sur l'étranger parce qu'ils ont des amis qui viennent d'autres pays étrangers qui sont en France et du coup, ils se sentent très intégrés dans la culture. Ça peut être une expérience. Je suis partie en voyage avec mes parents, avec des amis, mais au moins de savoir que c'est possible de partir à l'étranger, c'est possible aussi d'aller tester ou découvrir d'autres compétences dans d'autres pays. Ça, c'est très important. Et puis, on sait maintenant au niveau de l'employabilité, notamment des jeunes, qu'une expérience à l'étranger sur un CV, c'est vraiment un avantage.
D'accord. Mais si par exemple un jeune il veut aller dans un pays mais qui ne parle pas cette langue, la barrière de la langue ne risque pas de poser de problème ?
Alors, la barrière de la langue, avec le programme du Corps européen de solidarité, il y a une solution, c'est qu'à l'intérieur des heures de mission, imaginons qu'un jeune parte sur une mission, je ne sais pas, de 30 heures en Irlande pour travailler dans une association, à l'intérieur de ces heures de mission, il y a des cours de langue qui sont directement intégrés et financés. C'est-à-dire que même si le niveau en langue au début lui permet d'avoir les basiques et qu'il souhaite essayer de s'intégrer un petit peu plus, eh bien, ces cours de langue lui permettront de l'accompagner. Nous, par exemple, c'est le cas de notre volontaire qui nous arrive de Turquie, qui parle anglais et qui commence à se débrouiller vraiment pas mal en français. Elle suit des cours de français toutes les semaines à Évreux.
D'accord. Eh bien, c'est vraiment... merci pour la réponse à toutes ces questions. Ouais, ça donne très envie et...
J'espère que ça veut dire que je fais bien mon travail. Moi, c'est vrai que c'est la mobilité, ça me parle, j'en ai fait aussi. Et du coup, quand j'en parle aux jeunes, je leur dis toujours que si ça te donne envie, tente, ne reste pas derrière juste avec une envie et puis concrétise ce projet. Et nous, on est là pour t'aider.
Ok. C'est vraiment super. Mais du coup, du coup, vous avez déjà eu des jeunes qui n'étaient pas satisfaits de leur retour, de leur démarche.
J'ai eu aucun jeune qui est parti et qui est revenu en me disant « je n'ai pas aimé ce que j'ai fait ». Aucun. Il y en a certains qui partent et qui reviennent en me disant « moi, je suis partie en pensant que j'allais faire ça après » et qui finalement se lancent dans totalement autre chose. Moi, je trouve ça super parce que ça veut dire que par cette expérience à l'étranger, ça leur a vraiment ouvert des portes et qu'ils ont vraiment découvert d'autres choses. Il y a des jeunes aussi qui sont partis sur des missions un petit peu plus courtes et là, ils se sont dit « c'était bien, mais avec du recul, j'aurais bien aimé partir plus longtemps ». Donc là, on se dit « bon, c'est bon, ça veut dire qu'on a tout gagné et que l'expérience leur a vraiment plu ». Mais moi, j'ai aucun jeune qui est parti à l'étranger en me disant « ça ne m'a pas plu ». Voilà. Pour tous et toutes, c'est toujours une expérience significative dans leur parcours pro et perso aussi.
Donc au final, c'est vraiment une chose positive à faire pour
c'est
pour
tout bénef, voilà, c'est ça. Moi, je dis que c'est que du plus. Et puis, généralement, c'est très important aussi le témoignage des pères, d'avoir d'autres jeunes qui peuvent ensuite être ambassadeurs de ça et en parler, parce que tu comprends tout de suite en expliquant « moi, j'ai ce projet-là » et qu'eux, ils te répondent « mais moi, j'ai déjà fait ça », qu'ils ont envie que tu partes, ils ont envie de transmettre aussi ce qu'ils ont appris. Donc vraiment, là-dessus, moi, je trouve que c'est une expérience très, très positive.
Et au final, si un jeune veut partir et que lui, il a vraiment envie de faire tout, enfin, il a déjà fait toutes les démarches et tout ça, mais que ses parents l'en empêchent, est-ce que vous faites quelque chose pour ça ou
Alors, généralement, c'est vrai que ça peut être un frein aussi d'avoir la peur de la famille derrière. Nous, la Maison de l'Europe, on a vraiment un accompagnement individualisé avec le jeune et des fois, quand il y a besoin, aussi avec la famille. Parce que c'est vrai qu'un jeune qui tape partir à l'étranger sur Google, tu vas avoir des résultats et puis oula, les parents ou même la famille peut se dire « est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire ?» Mais nous, notre travail, c'est vraiment de leur dire qu'il y a des solutions pour partir à l'étranger où c'est encadré. Donc la Maison de l'Europe, on encadre le jeune, il ne part pas tout seul comme ça dans la nature. Après, il y en a qui ont envie de partir avec l'expérience sac à dos et on leur dit « mais fonce, vas-y, si tu te sens prêt, il n'y a pas de problème ». Et quand c'est comme ça, moi je rencontre les parents, je peux avoir des parents des fois qui me disent « oula, partir à l'étranger, on a ces idées-là, le premier frein de toute façon à la mobilité, c'est l'argent ». Ça va être tout de suite se dire « l'argent c'est compliqué ». C'est pas possible et puis c'est compliqué la démarche. Donc nous on leur dit vraiment le Corps européen de solidarité, on solutionne ces deux problèmes là avec l'argent, c'est financé par l'Union européenne déjà, donc là on est rassuré. Et puis sur c'est compliqué sur les démarches, on leur dit les démarches c'est nous, on vous accompagne sur les démarches, le jeune n'est pas tout seul. Et donc là généralement une fois que ces deux freins sont vraiment désamorcés, là c'est tout bon quoi, ils se sentent tout de suite bien encadrés et puis quand il y a besoin on fait plusieurs rendez-vous, on discute vraiment et on prend le temps surtout de décortiquer la problématique quoi, du jeune, qui peut être aussi des fois des parents qui ne sont pas prêts à ce que le jeune quitte le nid, hein, ça peut arriver aussi, mais dans ces cas-là je pense que tout se discute.
Du coup on peut dire que c'est de l'encadrement aussi envers les parents pour
Oui. Enfin, on les encadre, on leur propose aussi ce qui est, on leur explique ce qui est offert vraiment aux jeunes. Mais après, nous, c'est toujours une volonté du jeune. On ne fait jamais partir un jeune qui se dit, bah moi, c'est plus mes parents qui ont envie que je parte. Par exemple, ça peut arriver. Mais généralement, les parents sont ceux qui ont envie. On pourrait croire l'inverse, mais c'est plutôt les parents qui poussent le jeune à partir et le jeune qui est là, oui, à voir.
D'accord. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions.
Merci à toi, merci pour l'accueil.
Oui, mais je vous en prie.
Hello.
Hello. What do you want?
What do you want?
Just rule.
Have it. Can we come up and have a look? Of course not. You are English type, sir. Well, what are you then? I'm French. Why do you think I have this outrageous accent, you silly king? What are you doing in England? Mind your own business.
Please, you stop now.
I guess I better fold this map.
I never knew.
But with someone would have told me that. They said anytime you leave, you'd be rolling back. That's how you're supposed to act when your cultures clash.
London, Panam, c'est pas la même. Maïs, Diggy, on dit quoi ma mère? Différents pays qu'on fasse au micro. Unis par le son du guide Smokey Joe.
Just landed at Charles de Gaulle, a cabman's like,
do you need a cab, monsieur?
Grabs my luggage, cause he could tell my arms were sore. Told me one price, in the end charged me more. Wait, I realize there's a lot I need to know. Like why so many look like they got a stylist at home? And why does no one look at a frog like it's a toad? Why does everybody drive on the wrong side of the road, bro? Bad manners, though they claim they're polite, war waging. Every other day there's a strike, old man barge past, try to get his move on instead of,
excuse
he shouts,
vive la révolution.
This couple sound like the House of Parliament when they're speaking, they're screaming. I seem like they're arguing in agreement. A custom I could never get used to. And I swear if I trip over another French poodle, I'll kill them.
London, Panam, c'est pas la même. Maïs, Diggy, on dit quoi ma mère? Différents pays qu'on fasse au micro. Unis par le son du guide Smokey Joe.
I guess I better fold this map.
I never knew.
But with someone would have told me that. They said anytime you leave, you'd be rolling back. That's how you're supposed to act when your cultures clash.
Hey, no, Maïs, pourquoi tu veux pas m'écouter? Je te l'ai déjà dit. C'est vous qui conduisez du mauvais côté. Les Anglais, mais quel peuple étrange. Je les trouve sympathiques, mais j'ai du mal avec ce qu'ils mangent. Exemple, chez nous les flageolets, c'est pour le cassoulet. Je n'ai jamais connu de Français qui au petit déj en voulait. Jamais. Ce que je consomme ici me rend vraiment pas fou. Entre la bouffe insipide et les bières qu'on pas le goût. Mais j'ai mes petites techniques. Après ma dixième cuite, j'oublie l'horrible jelly et graille un fish and chips. J'ai voulu prendre le soleil, mais c'est la merde chez vous. Le ciel est toujours gris, normal que y ait que des roues. J'ai connu que la pluie, même quand je venais l'été. Je voulais des teasers de whisky, je n'ai vu que des buveurs de thé. Dis-moi que je rentre loin de ces autochtones banettes. Je peux faire un camembert avec une bonne baguette.
Now look here, my good man. I don't wanna talk to you no more, you empty-headed animal fruit throat whopper.
Is that what he said?
I fart in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelt.
Your attitude is not just.
Alright, it's been some time now, I've settled in. Even got a Renault to drive around the meadows in. Early morning standing in line for fresh bread and things. Now I'm guzzling red wine down with everything.
J'ai pris goût au tea time, juste avant le freestyle. 5 minutes inside, DBB n'est still fine. XX large et le smoke it still. Vinny Vidi Beach Fly and Notting Hill.
Though I could never get used to snails or that cheese with a doo-doo smell. In the food department, you do well. I told the chef as he passed me the sandwich. He said, oh, cause I can't speak the language.
On s'en bat les couilles de pas parler la même langue au final. Tant que la vibe est éminemment optimale. On mélange beat, fat, technique, flow. On est ensemble, fuck Brexit, bro.
Yeah, you said it, bro. They're blocking many routes. Till they stop us getting through, we ain't following the rules.
On fait bouger les foules, on aime kiffer ensemble. Le public devient épileptique et rentre en.
And you ain't lying, fuck Brexit. Any disagreeing can greet my exit with a French kiss.
On fait la guerre en concert, c'est moche, beat pogo. Mais là c'est pas un clash, c'est un melting pot.
Yeah, I guess I better fold this map.
I never knew.
But with someone would have told me that. They said anytime you leave, you'd be rolling back. That's how you're supposed to act when your cultures clash.
London, Panam, c'est pas la même. Maïs, Diggy, on dit quoi ma mère? Différents pays qu'on fasse au micro. Unis par le son du guide Smokey Joe.
Non, pas je, la langue entre les dents, je.
Bonjour, on présente une course d'obstacles d'équipe de 4 mix le jeudi 23 juin 2022 au collège Maurice de Vleumingue.
Venez à partir de 14h.
Il n'y a pas d'inscription, notre adresse mail est coursedobstacles2022@gmail.com. Vous pouvez nous contacter au 06 12 14 82 94 06 12 14 82 94.
Et nous recevons à nos micros Monsieur Vincent Pozo. Comment allez-vous, Vincent?
Bah, très bien, merci pour cet accueil.
Merci à vous.
Et vous, ça va?
Oui, ça va. toujours. Ouais. Toujours le smile. Alors du coup, Vincent, pouvez-vous vous présenter et présenter ce que vous faites?
Alors donc, je m'appelle Vincent, je travaille pour la Ligue de l'Enseignement. C'est une association d'éducation populaire, c'est-à-dire qui a vocation à faire avec les gens pour s'éduquer ensemble, s'éduquer à travers le sport, s'éduquer à travers la culture. Et moi, ma mission, donc, c'est de travailler principalement avec des jeunes, bah, comme vous d'ailleurs, sur le service civique par exemple, pour accompagner l'engagement.
D'accord. Pouvez-vous détailler vos missions?
Ouais, alors donc moi je suis sur deux aspects principaux, qui est l'engagement des jeunes et tout ce qui est, vont dire, éducation, la citoyenneté, valeurs de la République. Donc je fais, c'est la raison de ma présence aujourd'hui, beaucoup d'accompagnement des projets de jeunes au collège, au lycée, partir d'une idée qui leur touche, par exemple défendre la cause animale, et en fait de leur donner des idées d'action et les accompagner à réaliser leur projet. Ça, c'est une mission type que je fais souvent dans les collèges et les lycées, mais j'en ai d'autres qui consistent notamment à accompagner les jeunes majeurs sur du service civique. Donc c'est des missions d'intérêt général sur une durée de 6 à 12 mois. Voilà, donc c'est une partie de mes missions, mais j'en ai plein d'autres, mais les plus intéressantes sont celles-ci parce que c'est pourquoi je suis là aujourd'hui.
D'accord. À qui est destinée vos actions, du coup? Du coup, on en a parlé, les jeunes.
Mais, ouais.
Donc en gros, vous les accompagnez pour des projets qu'ils ne peuvent pas forcément réaliser tout seuls.
C'est ça, exactement.
Vous accompagnez dans leurs idées, dans leurs projets.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, quand on est bien sûr au collège, on a bien sûr des causes qui nous touchent et qu'on veut défendre, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc nous, on est là pour les accompagner, donner des idées, mais pas faire à leur place, mais les laisser agir. Et après, nous, on se fiche du résultat. On n'est pas à l'école, donc il n'y a pas d'objectifs à atteindre. L'idée, c'est juste de faire comme vous faites aujourd'hui. On n'est pas, pas des techniciens. On est juste là pour faire et apprendre par le fait de l'activité. Et à travers ça, ça permet de se découvrir, de voir ce dont on est capable et de dire, moi, à mon petit niveau, j'ai pu agir et faire des choses sans passer par une case universitaire. Voilà.
D'accord, très bien. Oui, donc c'est vraiment un accompagnement, c'est accompagnement personnalisé, collectif, c'est comment?
Les deux. Par exemple, je parlais du service civique qui est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Là, on est vraiment sur un dispositif individuel.
D'accord.
Ça concerne un jeune qui va faire une mission, par exemple la radio ou la culture ou le sport. Et des accompagnements collectifs, là c'est plutôt ce que je fais au collège et au lycée. C'est-à-dire on est sur un groupe d'élèves qui ont ensemble une même envie d'agir sur un sujet.
Ok.
Vincent, je me permets, vous avez parlé d'éducation populaire, vous avez parlé de citoyenneté, des choses que forcément quand on a entre, je sais pas, 16 et 25 ans, on ne maîtrise pas totalement. Quels sont les outils pour devenir citoyen, comme vous le dites, qui sont à disposition des jeunes? Puis c'est quoi cette éducation populaire? Ça fait deux questions, normalement, avec vous.
J'ai combien de temps pour répondre?
Non, bon, on se fait 2 minutes, 3 minutes de réponse, ouais, okay, si vous voulez. Mais c'est quoi cette éducation populaire? Parce que vous le dites comme si nous savions tous ce que c'était.
Oui, c'est vrai.
Et puis, quels sont les outils pour les jeunes pour devenir ce qu'on appelle citoyen?
D'accord. Alors, justement, vous qui êtes en face de moi, les garçons, vous avez été à l'école, tout comme moi.
Oui.
Je ne sais pas ce que vous avez retenu de l'école. Moi, pas grand-chose, parce que c'est des méthodes plutôt descendantes, qui sont intéressantes, parce qu'on apprend des connaissances théoriques, l'histoire, les mathématiques. Mais il n'y a pas de pratique.
On n'apprend pas vraiment tout ce qu'on aimerait apprendre sur la vie, ce genre de choses.
Et on sort du lycée, on ne se connaît pas trop soi-même, finalement. Ouais. On ne sait pas ce qu'on aime, parce qu'on n'a pas été amené à mettre en pratique des choses qui nous touchent, nous. Donc voilà, et l'éducation populaire est complémentaire à l'éducation nationale, mais nous on agit sur l'activité, à travers des outils comme disait JC. Par exemple, le service civique, c'est un outil pour pouvoir agir sans compétences particulières. On a la radio qui est aussi un outil pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir
informer,
expérimenter le métier de journalisme, mais sans passer par la case école de journalisme, et c'est ouvert à tous. Et l'éduc pop, c'est ça en fait, c'est tout le monde peut faire. Et on fait ensemble et on apprend en faisant. Là où l'école, en fait, on nous donne une sorte de savoir un peu descendant et théorique, mais qui finalement on n'a pas trop assimilé parce qu'on ne l'a pas vécu soi-même. Donc c'est un mélange de connaissances et de savoir en fait.
C'est un peu comme pour compléter un peu ce qu'on n'a pas vraiment appris à l'école.
Bah ouais, par exemple, en fait, finalement, quand on fait avec des enfants, je sais pas, une activité, conçoit des jeux en bois. A priori, ça paraît pas très important, mais oui. Au final, on va mettre en œuvre de la géométrie, des mathématiques. On va, en fait, par le biais de l'agir, mettre en œuvre des connaissances un peu théoriques.
Donc assimiler la pratique à la connaissance, quoi.
Bah, c'est ça. Si on prend l'exemple de la radio ou du foot, on peut faire un cours sur c'est quoi la radio. Ça, c'est une console, ça, c'est un micro. En fait, on va le faire et en faisant, on va comprendre plus facilement et plus rapidement. Comme au foot, on va pas dire en enfant, alors une passe, c'est ça, un contrôle, c'est ça, un dribble, c'est ça. On prend le ballon, on fait et on corrige en faisant. C'est une façon d'apprendre différente. Ouais. C'est ça.
Mmh. Okay. Du coup, c'est une association, du coup.
Oui, qui... tout à fait.
Depuis quand a-t-elle été créée, cette association?
En 1866. Donc on est,
c'est vraiment quelque chose de...
d'ancien.
D'ancien, ouais, ouais. On peut le dire.
Bah, c'est la première association déclarée en France. Et c'est un mouvement, le premier mouvement en France qui a rassemblé les gens afin de s'éduquer tous ensemble.
Un peu voilà. Les précurseurs, quoi.
Tout à fait.
On peut le dire.
Tu peux le dire, ouais.
Ok, bah, c'est vachement cool.
Moi, j'avais une deuxième partie dans ma question. Pardon, c'était intéressant, hein, cette notion de pratique et d'éducation populaire, et c'est beaucoup plus clair pour nous tous maintenant. Mais c'était la question de citoyenneté. Finalement, c'est quoi être citoyen et pourquoi inviter les jeunes à prendre une place de citoyen? Peut-être définir d'abord ce qu'est un citoyen et puis pourquoi pousser les gens à devenir citoyens.
Alors nous, on est vraiment sur la citoyenneté, c'est-à-dire c'est vraiment l'acte, l'étape supérieure au citoyen. Citoyen, on a des droits, des devoirs, on peut voter, c'est un préalable, c'est même la base. Mais la citoyenneté, c'est l'étape d'au-dessus qui consiste à agir pour la société et à agir peu importe tes compétences. Là, on a des enfants qui ont entre 12 et 15 ans et qui font des choses. Alors c'est peut-être pas parfait, mais on s'en fiche. En fait, ils font et ça leur permet d'avoir une conscience de citoyen avec un rôle actif qu'ils n'auraient pas eu avant ce projet. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et donc voilà, l'éducation, la citoyenneté, c'est ça. C'est éduquer les enfants à pouvoir agir et à faire, sans se soucier de est-ce que c'est correct ou pas, est-ce que c'est dans les bonnes cases ou pas.
Ouais. Et être fier d'eux, du coup.
Ouais, c'est ça. Et te dire, bah, je suis capable et je sens que moi, à mon niveau, bah, j'ai mon rôle dans la société. Je peux, à mon niveau, agir pour défendre la cause animale, pour permettre de faire du sport pour tous. Voilà,
ça c'est la citoyenneté. Ça aide à devenir un homme, finalement.
Un homme et une femme, ouais. Citoyenne et citoyen, c'est ça.
Tout à fait.
Je trouve que j'ai perdu en route la question de JC initiale.
Elle n'était pas très importante, cette question. Finalement, ce sont vos réponses qui sont d'accord. Intéressantes.
Exactement.
Peut-être sur le... Vous allez conclure peut-être vous en plateau, parce qu'en fait, le temps avance là. On vous aurait bien gardé, hein, Vincent, mais on n'a pas forcément la journée devant nous, parce que vous êtes le genre d'invité à la journée, vous, hein,
c'est ça.
Vincent. Hein.
Tout à fait.
C'est, donc, on ne va pas vous garder toute la journée. On conclut.
Bah, du coup, bah, merci à vous d'être intervenu dans notre émission.
Merci à vous.
Où pouvons-nous vous contacter, vous retrouver, voir vos...
Alors aujourd'hui, je suis à côté, là, sur le stand à votre droite. Et sinon, oui. Je suis à Évreux, rue Saint-Thomas. On a nos bureaux. Et puis, j'agis partout sur le département de l'Eure. Donc voilà, je suis animateur mobile. Voilà.
Ok. Bah, merci beaucoup.
Merci à vous. Amusez-vous bien.
Merci.
Les gens à grand rivés sur écran, hypnotisés comme des morts vivants. Mutants dépités, déportés sur bateaux, des maths et pétrifiés devant la défaite annoncée. Les yeux violés d'images vilaines, de ventes avariées, l'âme délavée dans la lessiveuse de billets. Chaque jour qui vient, un nouveau phare s'éteint et rejoint le chemin qui mène à l'autoroute des pandas.
Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains déshumanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés.
Nos vies avalées, dévaluent au gré des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilissent des humains sans âme dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse, les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des
des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face aux gouffres qui s'ouvrent sous nos pieds.
Des humains, 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 des
humains, des
des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilissent des humains sans âme dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face aux gouffres qui s'ouvrent sous nos pieds.
Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains,
des humains.
Cette petite radio est ce qu'on appelle une radio libre.
Une radio libre est avant tout l'expression de la vie locale et de la population d'un quartier, d'une ville ou d'une minorité.
Principe actif 95.9 102.4.
Alors nous nous retrouvons avec le maître principal Olivier. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour à tous, ça va bien et vous ?
Ça va très bien, merci.
Alors bonjour à vous. Est-ce que ça serait possible de nous présenter un peu votre métier ?
Alors la Marine Nationale, mon métier, bon, je suis électricien, la Marine Nationale, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure. On peut rentrer dans la Marine Nationale entre 17 et 30 ans, avec un niveau de 3e jusqu'à un niveau de Bac plus 5, 80 métiers différents. Donc là, expliquer aux auditeurs en 5 minutes, c'est juste pas possible. Mais voilà, c'est des métiers qui sont passionnants. On travaille aussi bien sur terre, sous l'eau, sur l'eau et dans les airs. Donc plein de métiers super passionnants, avec des affectations qui peuvent être aussi bien en métropole qu'en outre-mer et qui donnent une valeur ajoutée à mon travail.
D'accord. Et vous nous dites qu'avec un bac plus 5 ou même avec un bac général ou sans bac, on peut rentrer dans la marine. Du coup, d'avoir un diplôme, qu'est-ce que ça peut nous ouvrir comme porte ?
En fait, dans la Marine Nationale, nous rentrons un peu comme dans certaines chaînes de restauration rapide, avec deux niveaux différents, soit en tant qu'opérateur, soit en tant que technicien. L'opérateur, on va le recruter entre le niveau 3e jusqu'à un niveau bac. Et le technicien, entre le bac jusqu'à un bac plus 5. L'employabilité ne sera pas la même. Le technicien est là pour encadrer l'opérateur. Et c'est pas parce qu'on est simple opérateur qu'on va pas évoluer pour devenir plus tard technicien, voire technicien supérieur.
D'accord, mais vous nous parlez d'opérateur et de technicien, mais du coup, quelle est la différence ou vraiment en quoi consiste le boulot, par exemple, de technicien que opérateur ne ferait pas ou inversement ?
En fait, c'est vraiment, il faut vraiment comparer ça. Souvent, là, je fais ça avec une chaîne de restaurant rapide pour pas citer de marque. L'opérateur, il va confectionner les hamburgers, par exemple, et le manager sera derrière pour voir s'il fait bien son opération et s'il est bien dans le sens de la sécurité, du travail bien fait, etc. C'est la même chose, quel que soit le type de métier. Moi, je suis électricien, je vais donner des ordres à mes quartiers maîtres pour aller faire le travail qu'il y a besoin de faire, que ce soit de la maintenance corrective, préventive. Je serai derrière eux pour regarder s'ils font bien le travail et je serai là pour valider le travail derrière. Et plus tard, ce sera eux qui prendront ma place et qui seront techniciens pour encadrer de jeunes opérateurs.
D'accord.
D'accord, donc il y a vraiment une vraie hiérarchie et possibilité de carrière d'évoluer à tous les étages.
Voilà, on évolue. Il faut être conscient que c'est pas parce qu'on rentre avec un certain diplôme qu'on va rester à ce diplôme-là. On peut rentrer avec un diplôme, par exemple avec un BTS, qui est quand même pas mal, être employé en tant que premier technicien. Lorsqu'on fait le cours, on a un équivalent d'un bac. D'un bac qui peut être différent de celui qu'on a. Je prends l'exemple de quelqu'un qui rentre avec un bac général et qui décide de faire contrôleur aérien. Il va faire un cours qui va lui donner une équivalence reconnue dans la marine par l'éducation nationale, pardon, ce qu'on appelle au RNCP, c'est le recueil national des compétences professionnelles, dans le monde de l'aéronautique en tant que technicien contrôleur d'aéronautique. Donc c'est vraiment des valeurs ajoutées et au fur et à mesure des affectations et des cours qu'on peut faire, on vient ajouter ces compétences-là et reconnues après pour basculer dans le civil.
D'accord. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté, j'ai dit maître principal. Pouvez-vous expliquer un peu ces grades
Alors, la
par exemple, où se situe votre grade voilà.
Alors la hiérarchie, elle est assez commune dans l'ensemble des armées. On a une équivalence, les termes ne sont pas les mêmes. La Marine nationale a gardé des termes très anciens. On est axé essentiellement sur le grade de maître. En fait, le maître est le centre, on va dire, le noyau central des sous-officiers. On appelle les officiers mariniers dans la Marine nationale. Et après, j'ai tendance à, pour expliquer aux gens, dire bah, c'est facile, vous rentrez, vous allez faire simple matelot. Et après, vous allez devenir un quart de maître. Vous allez devenir quartier maître. Et puis vous allez augmenter au fur et à mesure, passer technicien, vous allez devenir la moitié d'un maître. Vous allez devenir second maître. Puis après vous êtes maître, puis après vous passez au-dessus, vous devenez premier maître, maître principal, c'est mon cas actuellement, je suis maître principal. Et un dernier corps le grade de major, qui est un corps spécifique avant et qui a été intégré aujourd'hui en tant qu'officier marinier supérieur.
D'accord. Okay. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre l'armée de mer et l'armée de terre, par exemple, tout bêtement,
par rapport juste aux activités que vous pouvez faire?
Je vais plutôt, avant de faire la différence, je vais parler surtout de la partie commune.
D'accord.
L'ensemble des armées, on a 5 missions stratégiques. Elles sont communes à toutes les armées. Donc en fait, on fait tous le même boulot, sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens matériels et les mêmes moyens humains. Typiquement, mes amis terriens, ils vont pas sur les bateaux. C'est pas parce qu'ils ont le mal de mer, c'est qu'ils sont pas équipés pour le faire. A contrario, ils ont des hélicoptères, donc ils sont capables de se projeter. Ils ont le Tigre, par exemple. Ils sont aussi une unité qui vole. Pourtant, c'est les gens de l'armée de terre.
D'accord.
Les gens de l'armée de l'air, eux, bah, on pourrait dire oui, mais ils font que l'air. Mais ils ont aussi des fusiliers marins, comme les marins, ou des fusiliers de l'armée de l'air, qui sont des soldats. Donc, en fait, on a les mêmes missions, on n'a pas les mêmes moyens et en fonction de ce qu'il y a besoin de faire, bon, on enverra plutôt l'armée terre, l'armée de l'air ou la marine. Est-ce que ça...
Oui,
je pense que ça image pas mal.
L'important, c'est que les auditeurs comprennent.
Oui.
Non, mais ça répond bien à la question.
Alors, une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter, par exemple, sur une de vos missions ou...
Une anecdote hein. J'ai plein d'anecdotes.
Oui,
en fait,
j'imagine, vous devez en avoir plein.
J'ai pas mal de vécu, parce que j'ai quand même 32 ans de boutique, donc
ah oui.
Ça commence à le faire. J'ai
une belle carrière.
J'ai une belle carrière. Les anecdotes, ouais, j'en ai plein. J'ai surtout une super anecdote très rigolote. En fait, j'ai eu la chance, c'est presque un privilège, d'être invité par l'ambassadeur du Sultanat du Brunei avec mon commandant, la représentante officielle de la Marine nationale en Outre-mer. Donc c'était hier en 2012 et on recevait en même temps le représentant d'une grande société d'essence, pour pas donner de nom. Et puis en fait il était avec sa femme et sa femme elle s'embêtait avec nous en fait. Et puis forcément au bout d'un moment elle a discuté en disant ouais mais non mais c'est bien ici mais c'est un peu trop, est-ce qu'on pourrait pas parler d'un truc plus sympa? Elle me dit moi ce que j'adore en fait c'est votre tenue. Et puis vous savez, je lui ai dit, mais vous savez, dans la Marine nationale, nous, on essaye justement de faire plaisir aux gens. Et il dit, si vous voulez, si vous venez nous revoir dans une semaine, on refait escale ici. Si vous venez de nous voir, et ben moi, je m'engage à vous donner un pantalon, donc ce qu'on appelle un pantalon à pont. C'est uniquement les matelots qui ont ça. Mmh. C'est un pantalon où il n'y a pas de fermeture éclair. C'est entièrement avec des petits boutons sur le dessus. Et je dis, moi, je m'engage. Elle me dit, bah, écoutez, vous savez quoi, on fait un pari. Et elle est revenue une semaine après pour faire le cocktail du commandant. Et puis moi, bah, j'avais fait mon truc, j'avais dit à mon mousse, bah écoute, tu me prends ce pantalon-là, tu me le replies correctement, on l'emballe et quand la dame arrive, on lui offre. Mais c'est pas moi qui l'offre, parce que moi je suis pas mousse. C'est toi qui l'offriras parce que c'est toi mon plus jeune. Parce que tout pareil, dans cette logique de faire ça bien, la marine a des traditions. Et le plus jeune, dans le grade le moins élevé, on appelle ça le bidou. Et ben, c'est au bidou de faire cette... ça fait partie de cette attribution honorifique d'aller donner en fait et d'offrir ça aux gens.
D'accord.
Une anecdote comme une autre.
Ouais, bien d'accord. Bah, c'est cool, c'est cool.
Alors, je me permets, moi j'avais une question quand même, parce que là on parle de l'armée de manière générale et de la marine en particulier. Dans mon esprit en tout cas, et sûrement dans la représentation des gens, il y a une notion de service aux autres dans ces métiers. C'est-à-dire que ces métiers de l'armée sont là notamment pour la protection, la défense des populations, mais aussi l'accompagnement de certaines autres à l'étranger, notamment des populations à l'étranger. On a souvent entendu parler de l'armée notamment sur des couloirs humanitaires ou des choses comme ça. J'imagine que peut-être on ne rentre pas par hasard dans l'armée et dans la marine en particulier, même si on est électricien. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de vocation, quelque chose autour du don de soi ou en tout cas du service envers les autres?
Alors je dirais que c'est vrai, et en fait c'est propre à chacun. C'est le truc, c'est vraiment propre à chacun. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'aime être présent pour les autres. Mon métier n'est pas un métier où je vais pouvoir servir directement les gens, puisque électricien, je suis plutôt généralement un fond de cale au niveau de la propulsion. Donc forcément, c'est moins vrai.
Et ça y contribue tout de même.
Et ça y contribue, parce qu'on fait avancer le bateau, on fait l'électricité, on crée l'eau douce. Voilà, c'est une contribution qui est faite. Mais oui, de pouvoir aider son prochain, de toute manière, ça fait partie des attributions. On est militaire, c'est un fait. On a une étiquette de militaire. J'essaye de casser un peu l'idée qu'on est tous avec des fusils. On est là aussi pour aider les gens. Je donne comme dernier exemple, souvent, c'est ce qui s'est fait au moment de la Covid, où Bastia a été engorgé par les malades de la Covid. Et la Marine nationale a dépêché un porte-hélicoptère amphibie depuis Toulon pour récupérer un maximum de ces malades, pour les rapatrier sur Marseille. Ça fait partie de nos missions. Et ça rentre bien dans la question que vous avez posée en disant, est-ce que vous êtes aussi là? On est aussi là pour ça. On est là pour ça, on est là aussi pour l'action des temps en mer, quand il y a des choses qui se font avec des pollutions d'hydrocarbures. On est là pour évacuer des ressortissants quand il y a des conflits. C'est les nombreuses missions qui font que la marine et les armées... on a une image soit de soldats, mais on n'est pas que des soldats.
Là où vous pouvez aider, vous êtes là, quoi.
Ouais, on essaye.
J'avais une question. Vous avez parlé que vous fabriquiez l'eau douce.
Oui.
J'aimerais bien savoir comment.
Alors, ça, c'est purement, c'est assez mécanique. La grande chance qu'on a quand on est sur un bateau, c'est qu'il y a de l'eau de mer tout autour. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire chauffer l'eau qui va se transformer en vapeur, la récupérer. Une fois qu'on la condense, elle se redevient en eau, mais c'est de l'eau qui n'est pas buvable. Donc en fait, on la reminéralise. Donc là, il faut la contrôler correctement. Donc on a des outils pour le faire. On a des gens qui nous contrôlent aussi, parce qu'il ne faut pas rendre malade tout le monde. Et en fonction de l'eau dont on a besoin, eh ben, on peut la boire. On peut avoir de l'eau donc de qualité plus ou moins pure ou moins pure en fonction de ce qu'on veut faire.
D'accord. Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci de m'avoir reçu, en tout cas.
La marine recrute.
La marine recrute.fr.
Ouais, exactement.
There is no more incredible man on this earth.
became a monster.
Radio va bien et nous en sommes plutôt satisfaits, mais au plan des programmes, on pourrait faire beaucoup mieux.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Principe actif, à Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe actif, le mix des cultures.
Et nous sommes de retour pour présenter Lilou et Lina. Donc vous, vous présentez le stand contre les violences sexuelles.
Comment ça va ?
Oui, comment ça va ? Je sais que c'est pas très joyeux de parler de ça et de demander comment ça va.
Et, ça va.
Et aussi, est-ce que sur votre stand, vous avez pas mal de monde qui passe ?
Oui, on a surtout des jeunes élèves du collège notamment qui viennent pour en apprendre un peu plus sur le sujet. Et c'est très intéressant de parler avec eux, étant donné qu'ils ne savent pas forcément beaucoup de choses là-dessus. Ouais, non, c'est sympa, parce qu'il y a aussi des adultes qui viennent, et on a une grande diversité au niveau des âges, et ça montre que ça touche tout le monde. Donc c'est intéressant.
D'accord. Ma première question, pourquoi avez-vous décidé de défendre cette cause ?
Donc on a décidé de défendre cette cause car on a beaucoup de personnes dans notre entourage qui ont subi beaucoup d'agressions, etc. Donc on était touchés par le sujet et on a vu, ne serait-ce qu'avec notre entourage, que beaucoup étaient très sceptiques, il y avait beaucoup de tabous, etc. Et du coup les victimes étaient souvent seules, isolées, etc. Et on voudrait que ça change justement.
Voilà. Et du coup, malgré ça, pourquoi vous avez choisi de parler de ce sujet-là et pas d'un autre ? Pourquoi vous vous êtes resté focalisé sur l'idée de parler de violence sexuelle ?
Pour sensibiliser un maximum les gens, pour arrêter de faire culpabiliser les victimes sans cesse et pour que ça fasse évoluer entre guillemets la façon de penser de certains, notamment face à la tenue des victimes ou au comportement, etc.
Je me permets, j'avais une petite question. Moi, vous êtes jeune lycéenne, vous avez travaillé sur cette question. Est-ce que vous vous sentez vous-même concerné par le sujet, ou est-ce que vous vous sentez dans le besoin éventuellement de vous prémunir de violences sexuelles dont vous pourriez vous-même être, pas victime, mais concerné en tout cas ? Est-ce que ça fait partie des sujets qui vous concernent vous aussi personnellement, pas en tant que victime forcément, mais en tant que préoccupation ?
Bah oui, forcément, parce que malgré qu'on soit jeune, on en est confronté depuis petite pour certains ou certaines. Et donc, on est tous concernés. C'est pas parce qu'on est jeune ou qu'on est plus âgé ou quoi qu'on n'est pas concerné. ça, là, je ne change pas.
Et pour vous, comment est vu le sujet à l'école ?
Il n'est pas vu, en fait. Il n'est pas assez développé, pas assez mis en avant, alors que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Tout le monde peut y passer. On n'en parle pas assez. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce sujet-là. C'est un sujet qui est difficile pour les personnes qui ont été victimes de ça. On pense qu'avec l'école, c'est un moyen de montrer que on peut aider si les victimes ont besoin, on peut être là pour les aider et qu'ils ne se sentent pas seuls non plus. Je pense qu'avec l'école, c'est un bon moyen de communication sur ça.
Ouais, donc c'est le message que vous souhaitez faire passer aux jeunes, mais même aux plus âgés, que c'est pas une chose normale et que c'est un sujet assez important. Oui. Qu'il faut développer.
Oui, totalement.
Ça peut détruire des vies et du coup, c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est comme le harcèlement scolaire ou quoi. On en a beaucoup parlé, donc maintenant, il faut aussi parler de ça parce que ça peut faire évoluer les mentalités et il faut faire ça dès le plus jeune âge pour pas éduquer, entre guillemets, des futurs violents.
Moi, je voulais savoir, parce que vous travaillez sur cette question-là, globalement, une personne qui serait dans une situation de subir des violences sexuelles, est-ce qu'il y a des démarches à faire ? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour pouvoir sortir de cette spirale infernale un petit peu ? Est-ce qu'il y a des postures à avoir, soit pour la personne victime, soit pour l'entourage de cette personne victime ?
Alors, quand on est confronté à une personne victime de violences sexuelles, il faut déjà pas la faire culpabiliser, ce que beaucoup dans la société font. Donc la personne va peut-être pas vouloir en parler à la justice, et parce qu'au niveau de la justice, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de... Quand c'est une femme, il y a beaucoup de choses sexistes. Par exemple, la première chose qu'on lui dit, c'est comment est-ce qu'elle est habillée, alors que la tenue ne justifie absolument pas l'acte. C'est important d'en parler.
Puis c'est important de le dire, en fait, que, oui. Un truc tout bête, tu viens à l'instant de dire, aucune tenue ne justifie un acte d'agression. Mais c'est important de le rappeler, tout simplement, quoi, de le dire et de le redire, rien ne justifie.
Oui, totalement. Voilà.
Sur les entourages, est-ce que ça fait partie des thèmes que vous avez, vous, abordés, que vous avez réfléchi dessus, ou vous avez peut-être rencontré des gens qui étaient spécialistes de ces questions? Voilà comment on fait. Un des éléments, c'est le fait d'aller vers la justice. C'est pas toujours facile de ne pas poser de jugement, c'est ce que tu évoquais à l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces, d'autres façons de faire pour pouvoir accompagner au mieux une victime ou qu'une victime trouve des appuis?
Ne pas la forcer à en parler, déjà. Et surtout, ne pas... En fait, il ne faut pas brusquer les choses, parce qu'après, les victimes, elles se renferment sur elles-mêmes. Et donc, c'est sûr qu'elles n'en parleront pas. Et elles vont garder un mal-être. Ça peut durer pendant des années, mais il faut toujours accompagner une personne quand vous faites face à une personne victime. L'accompagner, la rassurer, et ne pas la faire culpabiliser, c'est vraiment l'important. Parce que dans la société, il y en a énormément qui font culpabiliser les victimes. Faut le rappeler que non, ce n'est pas de la faute de la victime. Ce n'est pas parce que tu avais une jupe courte que forcément tu t'es fait violer, tu l'as mérité. Ou autre, voilà.
Donc du coup, ce que vous présentez aujourd'hui, c'est vraiment cette façon de montrer, c'est montrer aux jeunes que en fait, rien n'est à cause d'eux, ou rien n'est à cause du fait ou du geste qu'ils ont fait, ou... Enfin, tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment pour sensibiliser vraiment tous les plus jeunes.
Oui, totalement.
Du coup, j'ai vu sur votre stand que vous faisiez une activité. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, on présente un QCM, enfin plutôt des questions où les personnes qui participent peuvent répondre. C'est un vrai ou faux, hein. On pose des questions par rapport à ça autour du sujet, que ce soit des nombres, même des définitions, pour qu'on sache exactement ce que c'est, et voilà.
J'ai vu aussi, bah, du coup, on parle du stand. J'ai vu aussi sur votre stand que vous présentez un violentomètre. Vous pouvez nous dire ce que c'est et à quoi ça correspond exactement ?
Alors, le violentomètre est un outil utilisé lorsque on a une relation. Donc, c'est pour, par exemple, s'il y a des comportements qui sont pas respectueux, des choses qui nous blessent, et c'est comme une échelle graduée de la gravité de la relation. Donc ça va du vert jusqu'au rouge. Donc quand c'est dans le vert, c'est que c'est une relation saine, etc. Et quand c'est dans le rouge, c'est que c'est abusif, que du coup bah c'est pas sain du tout, et que faut mieux s'éloigner de la personne car bah c'est toxique.
Et donc, du coup quand c'est rouge, qu'est-ce que les personnes, enfin les, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ces personnes-là, on peut les appeler de victimes, et est-ce que ces victimes-là peuvent se demander à de l'aide envers quelqu'un, quelque chose, ou auprès de quoi, ou qu'est-ce qu'ils font?
Alors oui, on peut les considérer comme victimes, car par exemple dans le violentomètre, dans le rouge, il y a se faire menacer avec une arme, donc ça c'est inadmissible. Et donc, il y a des numéros, en gros, elles peuvent se, le 3919 qu'on peut appeler. Donc, c'est un numéro que l'État a mis en place pour tout ce qui est violence, donc conjugale pour un homme ou une femme, ou tout ce qui est agression sexuelle, etc. Et il y a aussi des codes, notamment dans les pharmacies, les bars, etc. Donc, par exemple, dans les pharmacies, pendant le Covid-19, il y avait le code masque-19. Et ils appelaient directement la police et des équipes qui vont prendre en charge les victimes et les aider. Donc il y a notamment des psychologues, des gens qui vont réfugier les victimes pour les violences conjugales, les aider à partir. Et voilà.
D'accord. Et du coup, mais est-ce qu'il y a aussi, pour les personnes qui ne peuvent pas appeler ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils peuvent avoir, même si par exemple ils sont... en quelque sorte pistés, ou est-ce que pistés dans la rue ou quoi que ce soit, du coup ils peuvent pas aller dans vos pharmacies ou au bar ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un autre moyen un peu plus furtif de pouvoir communiquer d'appeler de l'aide sur internet ou quoi que ce soit,
en changeant par exemple si vous êtes marié et que vous vous séparez avec votre conjoint? Eh bien, lors des déclarations, etc., vous pouvez changer l'adresse, mais faut faire attention de bien faire le changement, parce que sinon votre ex-conjoint ou conjointe peut vous retrouver. Et donc, il y a plein de changements à faire comme ça. Et les personnes ont des centres, ont accès à des centres. Il y en a un peu partout. Enfin, il y en a partout en France, où elles peuvent se réfugier, et donc elles seront cachées, aidées par des gens spécialisés, donc des unités médicales, etc., pour les aider bah, à fuir, tout simplement.
D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des sites internet pour pouvoir appeler, enfin, comme le 3919, est-ce qu'ils ont des sites où vraiment juste en cliquant sur un lien, ils peuvent marquer leur problème, leur dire, voilà, j'ai un problème, je me fais agresser tout le temps et j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'il y a des sites sur ça qui...
Oui, il y en a. Je crois aussi que sur le... Je ne suis pas sûre de ça. Mais quand on va sur le gouvernement, sur la catégorie spéciale, normalement, il y a des numéros d'aide, etc. Il y a des adresses e-mail, etc. où on peut en parler. Et il y a beaucoup d'associations, notamment bah, dans toutes les régions, etc. Qui peuvent aider. Par exemple, sur Évreux, nous avons contacté l'association Nous Toutes, qui nous a fourni le violentomètre. Et elles préviennent du coup de tout ce qui est violence, etc. Et elles peuvent aider.
D'accord. Merci beaucoup. Et,
Attends, juste une. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous passer à ces victimes ou ces potentielles futures victimes?
Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que... vous êtes comme si, parce que vous souriez comme ça ou parce que vous êtes habillé comme ça, que ça justifie votre agression. Et faut pas vous remettre en question et essayer de changer pour ces personnes-là. Essayez d'en parler, ça peut aider. Il y a des psychologues, etc., qui sont prêts à vous écouter. Et bon courage.
Merci.
Merci beaucoup et puis bonne continuation à vous.
Eh bien, merci au plateau. Il y avait ce matin également devant cette salle des fêtes les équipements des pompiers de l'armée de l'air. Pour le coup, ils venaient de la base 105, notamment avec des équipements spécifiques. C'était l'occasion pour Florian et Lucas de nous faire un joli reportage.
Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter
Oui, tout à fait. Donc, bonjour, je suis le sergent Morgan. Je suis affecté sur la base aérienne 105 d'Evreux. Ici, je suis venu pour vous présenter donc le métier du pompier de l'air et de l'espace. Donc, on appartient à la BPA, la Brigade des pompiers de l'air. Nous sommes 1500 militaires pompiers de l'air. Donc, nous avons quatre missions. Notre première mission, c'est avec le CFR, le Crash Fire and Rescue. Donc, cette mission consiste à assurer la sécurité incendie sur tout ce qui est plateforme aéronautique. Donc notamment notre présence sur les bases aériennes. Notre deuxième mission, c'est avec tout ce qui est protection des installations aéroportuaires, donc le PIAP. Donc pour ça, on a un fourgon pompe-tonne léger qui assure cette mission, qui assure la mission de sécurité incendie sur la zone vie. Notre troisième mission sera le NRBC, donc le nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc notamment avec la crise du Covid, nous avons été beaucoup sollicités pour la désinfection des aéronefs militaires qui ont transporté des patients Covid de région en région. Et la quatrième mission sera le secours à victimes, qui est généralement effectué en heure non ouvrable, donc c'est-à-dire entre 17h et 8h le lendemain matin, pour assurer le soutien sanitaire sur la base aérienne.
Alors, faut-il avoir des diplômes pour exercer votre métier ?
Alors, pour rentrer en tant que pompier dans l'armée de l'air, on peut rentrer sous trois statuts. Donc, on peut rentrer soit en tant que militaire du rang, soit en tant que sous-officier ou soit en tant qu'officier. Nos statuts, du coup, nos entrées se feront par rapport à nos diplômes. On peut rentrer avec un bac, comme on peut rentrer avec un brevet ou un bac plus 2, voire un bac plus 3. Par rapport à vos diplômes, en fin de compte, vous pouvez rentrer sur une catégorie.
Et du coup, est-ce que ça serait possible de nous présenter ce qu'il y a ?
Oui, pas de souci. Donc là, devant vous, vous avez ce qu'on appelle un VMA 108, donc un véhicule mousse aérodrome 108, de type 108. Ce sont un des derniers véhicules qu'on a. Ce véhicule-là, il va être plus pour la mission du coup CFR, comme je vous parlais avant, la Crash Fire and Rescue. Donc c'est tout ce qui est sécurité aérienne au niveau de l'incendie. Donc des véhicules comme ça, sur la base aérienne d'Evreux, nous en avons 6. Et donc aujourd'hui, on vous en a ramené un pour vous le présenter.
À quoi sert l'appareil ici ?
Donc ce qu'on a mis sur la table, ce sont des appareils de détection qui nous servent du coup pour la mission NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc là devant vous, vous avez un AP4C qui permet de déterminer différents types d'agents et vous avez un dôme d'or donc qui permet de détecter tout ce qui est le radiologique.
Du coup, si vous pourriez me parler des chiffres, de combien de pompiers vous êtes à peu près ?
Oui, donc du coup, sur les territoires, nous sommes à peu près 1430 pompiers de l'air et de l'espace. Donc nous sommes déployés sur les territoires, sur les bases aériennes, mais aussi nous avons régulièrement des détachements en opération. Nous avons aussi des détachements du coup dans des pays étrangers qui rentrent dans le cadre des opérations Sahel ou Chamal.
Et je vois un deuxième camion là-bas. À quoi vous sert-il ?
Donc ça, c'est notre camion, ce qu'on appelle le camion pour l'ambition volontariat. Donc c'est un camion qui est dédié donc pour tout ce qui est les forums, les stands, les manifestations, qui permet d'expliquer donc l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Donc en fait, on recrute sur deux formes de contrats, donc soit à partir de ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers, où les jeunes peuvent s'engager sur un engagement citoyen à partir de 14 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans, où ils apprennent le métier pour devenir sapeurs-pompiers volontaires. Ou alors les gens peuvent directement s'engager en tant que sapeurs-pompiers volontaires, où là, il n'y a pas de limite d'âge. Donc on engage à partir de 17 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, voilà, pour entrer en tant que sapeurs-pompiers volontaires à l'issue d'une formation.
Je vois deux casques sur la table, à quoi vous sert-il ?
Donc en fait, les casques de pompiers, donc c'est nous, c'est ce qu'on appelle les EPI, hein, c'est des équipements de protection individuelle. Donc en fait, tout dépend de la mission sur laquelle on va intervenir. Donc les missions des sapeurs-pompiers, il y a différents types de missions. Les premières missions, c'est 80% de nos interventions, c'est ce qu'on appelle le secours à personne. Donc la tenue, c'est la tenue que j'ai, hein, c'est ce qu'on appelle une tenue TSI, où on a un minimum de protection avec une veste et un pantalon, c'est notre uniforme. Et la mission secondaire des sapeurs-pompiers, c'est vraiment l'incendie, qui représente qu'environ 15% de nos interventions. Et donc voilà, pour intervenir sur un incendie, donc on va retrouver ce qu'on appelle la tenue textile, hein, que vous voyez sur le mannequin, qui est équipé, donc qui nous permet d'avoir une protection sur les incendies jusqu'à une certaine température. Donc on va retrouver donc au pied du mannequin donc ce qu'on appelle donc les bottes à lacets, hein, tout simplement les Rangers, hein, qui nous permet, qui sont également coquées, donc qui nous protègent les pieds et qui nous protègent sur l'incendie. On va retrouver le surpantalon, hein, qui permet de protéger donc les membres inférieurs, et la veste textile qui nous permet de nous protéger donc du feu, et le casque qui protège donc la tête de la chaleur. Voilà. Donc ce qu'on voit en doré, c'est ce qu'on appelle le casque F1. Hein, c'est le casque traditionnel des sapeurs-pompiers. Et ensuite, on a d'autres casques, ce qu'on appelle, qu'on revoit ici, c'est ce qu'on appelle le casque F2, qui permet pour les spécialités. Donc, qui permet soit d'intervenir donc sur ce qu'on appelle les feux d'espace naturel. Hein, c'est un casque qui est beaucoup plus léger pour intervenir sur les feux de forêt. Et celui-là, le modèle jaune, c'est ce qu'on appelle le casque de sauvetage d'éblaiement. C'est pour intervenir sur les équipes spécialisées, sur les explosions d'immeubles, lorsqu'on intervient dans les décombres et des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est pour reconnaître les équipes spécialisées. C'est pour ça qu'il est de couleur jaune fluo.
Bon, eh bien, je vous remercie.
Mais je vous en prie.
Principe actif.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Non, c'est une radio libre.
Je suis au parfum.
À Évreux, 102.4. À Verneuil-sur-Avre, à Breteuil-sur-Iton, à Conches-en-Mouche, 95.9.
Et c'est ainsi que cette première partie de notre journée au Forum de l'engagement et de la citoyenneté va se conclure. Notre premier plateau radio, nous étions accompagnés de Jordan, Florian, Lucas, Alexis et Alexis. C'est eux qui auront mené de main de maître ces premières rencontres, ces premiers échanges, ces premières interviews, ces premiers reportages. Voilà, nous, ça va être l'heure de nous installer, de nous restaurer, parce que mine de rien, vous croyez quoi ? 1h30 d'émission en direct, bah c'est quand même un peu de boulot en amont, et on s'est levé de bonne heure quand même. Hein.
Ça creuse.
Bah ouais, ça creuse, et on s'est même levé un peu trop tôt, je crois, tous autant qu'on est, non ?
Ah
ouais,
un petit peu.
C'était un petit peu trop tôt.
Tant qu'il y avait du café.
Bon, il y avait du café, nous étions sauvés. Un petit tour de table, comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, cette matinée de radio, sachant que pour la plupart, c'était la première fois, non ? Hein ?
Pour tout le monde même, je pense.
Pour tout le monde ?
Oh, oui, j'avais déjà fait une fois.
Ah bah voyez, il y en a qui avaient déjà une très lourde expérience. Comment ça s'est passé pour vous ? On fait un petit tour de table ?
Franchement, c'était très, très agréable, un peu stressant, mais franchement, c'est passé tranquille.
C'est passé tranquille ?
Si je pouvais le refaire, je referais sans problème.
Et bah, ça tombe bien, aujourd'hui, on a une journée où il y a même un après-midi. on poursuit. Petit retour, Lucas, peut-être. Comment plutôt ça s'est sympa. Passé pour toi ? Plutôt sympa ?
Oui,
très bien.
Très instructif, du coup, ça nous a permis aussi d'apprendre pas mal de choses.
De vous mettre en difficulté un peu ?
On va dire ça comme ça.
Voilà. Comment ça s'est passé ?
Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience très intéressante et très instructive également.
Ouais, et ?
Moi j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup appris sur le stand des violences sexuelles parce qu'il y a plein de choses que je connaissais pas.
Et ben voilà, on apprend, on s'amuse, on bosse. Il va être l'heure de se restaurer, non ?
Bien sûr.
Quand même, hein, on est venu aussi un peu pour ça aussi, hein, pour manger le midi. Merci beaucoup à vous, Alexis, Florian, Jordan et Lucas, pour cette belle émission qui était une réussite, et ça je vous l'avais promis. Eh bien, on laisse les auditeurs à l'écoute de nos programmes, c'est pourquoi ? Parce qu'ils sont cool.